je te dirais que la chose numéro un d'avoir ces trois entreprises-là, c'est les best practices. Tu sais, les best practices, ça peut être par exemple au niveau des landing pages. Tu sais, quand quelqu'un découvre, ah ben regarde, moi je vais faire un test AB, puis mon résultat significatif dit que c'est mieux d'avoir ça comme ça. Ben clairement, on va le tester dans les autres business, puis on va le faire tout de suite, puis on va voir si ça a un impact positif comme ça a dans la première business.
Mon nom est Antoine Gagné et je vous souhaite la bienvenue au 56e épisode du podcast Hypercroissance. Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts ou sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié des nouveaux épisodes qui arrivent tous les lundis matin. Également, l'épisode d'aujourd'hui est présenté et produit par J7 Media, une agence de publicité Facebook. En gérant fièrement plus de 1 million de dollars de publicité Facebook par mois, J7 Media aide depuis 8 ans maintenant les entreprises à accélérer leur croissance via l'entremise de la publicité Facebook et Instagram. Si vous désirez être au courant des meilleures pratiques dans l'industrie en ce qui concerne la pub Facebook, je vous invite à écouter le podcast Social Selling qui est mis en ligne tous les mercredis matin. L'équipe de J7 Media vous livre chaque semaine des études de cas réelles qui vont pouvoir vous aider à améliorer les performances de vos campagnes. Utilisez des ressources existantes pour démarrer des entreprises distinctes est selon moi une des manières les plus rapides pour lancer un nouveau projet. Par contre, autant que cette prémisse peut s'apparenter fonctionnelle au tout début, autant il devient de plus en plus complexe de garder la même structure opérationnelle à travers le temps. Mon invité aujourd'hui, Michel Jodoin, cofondateur de 3 Marketplace en très forte croissance, vient discuter avec nous des défis rencontrés et d'incuber autant de projets. J'ai personnellement été un auditeur très attentif à cette discussion et croyez-moi, vous devriez l'être tout autant. Les expériences de Michel vont pouvoir aider tout entrepreneur qui veut incuber des entreprises en utilisant des ressources existantes. Sans plus attendre, ma discussion avec Michel Jodoin. Michel Jodoin, tu es fondateur de l'entreprise Soumission Rénovation, une place de marché qui met en relation des entrepreneurs en construction avec des particuliers qui désirent rénover leur maison. Suite au succès connu avec ton entreprise, tu as décidé de cofonder 2 autres organisations similaires, se nommant B2B Quotes et Expert Source. On a d'ailleurs eu la chance de recevoir ton partenaire Mathieu sur le podcast récemment. Michel Jodoin, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
Merci Antoine, ça me fait plaisir d'être sur ton célèbre podcast.
Michel, l'objectif de la discussion aujourd'hui, c'est de partager avec l'audience les apprentissages que tu as fait en incubant d'autres organisations avec la technologie que tu avais déjà construite avec Soumission Rénovation. Mais avant d'en discuter, peux-tu nous dire aujourd'hui les raisons qui t'ont poussé dans les dernières années à vouloir lancer d'autres entreprises complémentaires à Soumission Rénovation? Parce qu'on a eu la chance dans les premiers podcasts de Hypercroissance de te recevoir, puis tu avais parlé un petit peu de la genèse de Soumission Rénovation. Maintenant, j'aimerais ça essayer d'en apprendre un petit peu plus sur les raisons pourquoi tu as lancé les autres entreprises.
Ouais, ben je crois que c'est une très bonne question. En fait, il faut savoir que au tout début là, quand j'ai lancé Soumission Rénovation, puis même tu sais l'année 1, 2, même 3, j'avais vraiment pas l'idée de lancer d'autres plateformes. Puis bon, ben t'as rencontré Mathieu. Mathieu, c'est quelqu'un qui est capable d'insister fortement et qui est capable de vendre sa salade. Et puis Mathieu, je le connaissais depuis quand même plusieurs années là. Tu sais, je crois qu'à ce moment-là, ça faisait environ 7 ans que je le connaissais, qu'on lunch ensemble, qu'on allait prendre des bières, puis tu sais, on était des amis. Et ben en fait, Mathieu, il était dans l'industrie du marketing web. Puis il a beaucoup insisté pour partir en fait avec moi une autre plateforme. Puis j'ai dit ben let's go, on va essayer ça. Donc c'est vraiment plus parce que l'opportunité s'est présentée, en tout cas dans le cas de B2B Quotes, que c'est pas un grand plan machiavélique de domination mondiale que j'avais fait à la base pour dire bon ben on va créer plein de plateformes, c'est ça qui va se passer, tout ça. C'est vraiment l'opportunité s'est présentée. Mais j'ai quand même bien aimé mon expérience de comment ça s'est passé avec B2B Quotes. Puis ça m'a quand même ouvert les yeux. Puis ben après un an environ, j'avais lunch avec plusieurs personnes, il y avait plusieurs personnes que je gardais contact, puis mes yeux étaient beaucoup plus ouverts là, pour des opportunités similaires. C'est ça qui a fait en fait que j'ai lancé Expert Source. Puis ça c'est avec Dominique, qui tu sais au tout début Dominique, j'essayais de l'avoir peut-être tu sais comme employé à l'interne, mais je savais qu'il y avait le côté entrepreneur, c'est un peu difficile de garder cette personne comme employé, puis finalement il voulait pas la job d'employé. Puis après plusieurs conversations, tu sais, on s'est courtisé pendant quelques mois, puis à un moment donné, on dit ben pourquoi on lance pas Expert Source, donc la même genre de plateforme mais dans le milieu de l'immobilier. C'est vraiment comme ça que ça a été lancé. Puis une des affaires en fait que j'ai réalisé, c'est que donc après B2B Quotes, j'avais l'intention de lancer plusieurs nouvelles plateformes comme ça. Puis donc on a lancé Expert Source, puis j'avais l'intention en fait de lancer une nouvelle plateforme par année. Je me suis dit, ben, tu sais, je veux vraiment trouver les bonnes personnes, Ils vont gérer ces entreprises-là. Puis, moi, je vais mettre peut-être 1 heure par semaine, 2 heures, peut-être même 3 heures par semaine dans chacune de ces business-là, mais ça va rouler. Puis, après ces 2 business-là, j'ai réalisé que ben ça me prenait quand même beaucoup de temps. Mon temps est limité, puis surtout le focus est limité. Tu sais, quand on est dans la douche, puis on pense business, c'est pas vrai que je peux penser à tous les business en même temps. Puis quand je fais des rêves, des fois, il faut que je puisse rêver à une business à la fois. Donc, c'est quand même un des défis que j'ai réalisé, puis c'est ça qui a fait en sorte que finalement, j'ai décidé de pas lancer d'autres plateformes par après, parce que je voulais en faire en sorte que c'est les 3 plateformes, eux aient du succès, puis je voulais pas que d'en lancer une 4e, puis c'est au détriment là, des 3 autres plateformes.
Fait que de ce qu'on comprend là, pour le moment, pour les prochaines années, on va rester à 3, on n'ira pas à 4.
Ouais, exactement. Puis tu sais, la réalité, c'est que je veux jamais fermer de porte, mais en même temps, il y a eu quelques personnes qui m'ont déjà approché pour lancer d'autres plateformes dans d'autres industries, tu sais, qui étaient similaires. Mais tu sais, à chaque fois, j'ai dû leur dire, regarde, c'est pas le bon timing. Ça sera peut-être pour une autre fois. Je sais pas quelle idée, l'idée est pas mauvaise, mais tu sais, à un moment donné, il faut focusser au bon endroit là. Puis, mais ouais, il y aurait pas d'autres plateformes à moins que je sois un politicien puis que je monte encore.
Bon. Là, maintenant, ce que j'aimerais savoir, parce que c'est ça qui est très, très intéressant, c'est qu'à la fin de la journée, tu opères dans des verticales qui sont différentes, dans des segments de marché qui sont différents entre ExpertSource, B2B Quotes et Soumission Rénovation, mais il y a énormément de similitudes dans votre modèle d'affaires, votre modèle de revenus, puis également votre modèle d'acquisition. Beaucoup de gens que j'ai été capable d'avoir sur le podcast avaient des idées, des projets similaires, d'incuber des organisations à même leur entreprise principale. Beaucoup d'avantages étaient reliés à ça. Et ce que ces mêmes entreprises-là, des fois, me disaient, c'est qu'en incubant des projets, tu es capable de faire certaines économies, des économies de coûts, des économies sur des employés, dans une optique où si certains de tes employés chez Soumission Rénovation faisaient un certain travail, ils pouvaient par la suite faire ce même travail-là, disons, chez B2B Quotes, tu n'aurais pas à aller chercher d'autres employés externes pour faire cette même tâche-là. Ça a l'air beau d'un point de vue externe, mais dans l'absolu, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui fonctionne? Est-ce que tu es capable d'aller chercher, d'aller prendre des ressources que tu as déjà dans une entreprise et de les amener dans une autre et espérer le même succès?
Ouais, regarde, en théorie, tu l'as, tu as 100% raison, ça fonctionne. Mais concrètement, je dirais que c'est plus mitigé. Oui, il y a clairement des économies. Oui, il y a clairement des succès. Mais il y en a aussi d'autres que c'est pas tant vrai que ça se réalise. Tu sais, donc, on dit que je vais parler des choses qui ont fonctionné, que, tu sais, des partages qui ont bien fonctionné puis qu'on a pu économiser. L'équipe du blog. Tu sais, d'avoir une équipe qui peut à temps plein, créer du contenu pour Soumission Rénovation, B2B Quotes ou ExpertSource. Oui, ça a fonctionné pendant un bon bout de temps. Mais tu vois, en ce moment, c'est plus que, tu sais, chacun a leur équipe. La duplication de la plateforme, c'est sûr que ça a été un gros succès là, dans le sens que qu'est-ce que Soumission Rénovation avait déjà créé, mais on a juste pu dupliquer la plateforme, faire un copier-coller, comme on pourrait dire. Puis c'est ça qui a commencé B2B Quotes. On l'a adapté, évidemment. Mais tu sais, le premier set de B2B Quotes, c'était assez similaire dans le look à Soumission Rénovation. Puis on a aussi dupliqué, évidemment, pour ExpertSource. Les best practices, clairement, ça aide. Tu sais, qu'est-ce qu'une entreprise implante comme stratégie de vente ou des choses comme ça? Ben clairement, si ça fonctionne, on va le mettre dans les autres. Donc ça, encore, c'est une bonne affaire. La programmation, oui, absolument, on a eu des affaires qu'on a, des modules qu'on a implantés dans une business qui a été développée, disons, dans Soumission Rénovation, qui a été implantée dans les autres ou vice-versa, qui a été développé dans B2B Quotes puis que finalement, on l'a mis dans Soumission Rénovation. Le loyer, tu sais, notre loyer en ce moment, au nombre d'employés qu'on a, ça nous permet d'avoir un loyer plus intéressant que si on était chacun de notre bord ou le loyer. Des fournisseurs que des fois on va partager, qu'on va réaliser que ça a bien fonctionné. Tu sais, J7, ça en est un cas. Tu sais, ça a commencé avec B2B Quotes, ça a bien fonctionné. Finalement, tu fais les 3 business. Donc, bravo à toi, Antoine, tu fais du bon travail. Ça, c'est la preuve. Mais la réalité, c'est que tu sais, tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, c'est vrai, mais il y a des limites. Tu sais, la programmation, par exemple, les besoins spécifiques de chacune entreprise sont quand même de plus en plus spécifiques. Ils sont de plus en plus propres à leur industrie puis pas pareils aux autres. À tel point que B2B Quotes puis Soumission Rénovation, on s'enligne pour avoir 2 langages différents. Eux s'enlignent à développer sur Golang, puis dans Soumission Rénovation sur Node.js. Donc, tu sais, les affaires vont plus vraiment pouvoir se connecter, puis on va plus pouvoir développer quelque chose d'un côté puis juste facilement l'implanter de l'autre côté, mais on va quand même pouvoir continuer à coopérer sur des best practices au niveau de, tu sais, on va dire un dashboard fournisseur. Ben, tu sais, la réalité, c'est que quelque chose qu'eux développent, on peut clairement reprendre cette idée-là, mais il faut la redévelopper de notre côté dans notre propre langage. Puis, tu sais, je pourrais en nommer d'autres. Par exemple, le blog, à un moment donné, pour l'équipe du blog, écrire sur un sujet, il va être très bon, mais après ça, écrire sur le marketing. On dit écrire sur l'immobilier, c'est super. Mais après ça, ces mêmes personnes-là sont pas nécessairement les meilleurs pour écrire sur B2B Quotes. Puis les besoins, à un moment donné, du nombre d'articles fait en sorte que c'est mieux d'avoir chacun sa propre équipe. Tu sais, les visions, tu sais, je prends B2B Quotes, je donne eux comme exemple. Eux prennent le chemin plus venture capitaliste, VC. Ben c'est sûr que ça fait en sorte que les VC vont vouloir que la technologie soit séparée parce que pour des questions de propriété intellectuelle, par exemple. Donc, il y a quand même ça qu'il faut garder en tête. Mais c'est sûr qu'il y a eu des beaux avantages là, à partager les ressources.
Fait qu'en gros, ce que je comprends, c'est que tu peux lancer des projets peut-être en faisant certaines économies comme ça, en faisant un partage de ressources, mais quand les entreprises atteignent une certaine maturité, c'est là que ça commence à se complexifier, là.
Exactement. Mais ça change pas le fait qu'on va s'aider pour des best practices, mais à un moment donné, au niveau des ressources, des personnes en tant que telles dans l'équipe, tu sais, B2B Cause puis Soumission d'Innovation, on n'a plus personne qui sont dans les deux business. Dans Soumission d'Innovation puis dans Expert Source, on a par exemple notre éditrice qui va faire l'édition de la personne qui fait les articles dans Expert Source, parce que cette personne-là dans Expert Source qui crée les articles a besoin quand même de se faire éditer. Ben parfait, tu sais, si on va l'aider, c'est une couple d'heures par semaine, ça se passe bien. Mais c'est sûr que plus le temps passe, plus ces avantages-là sont moins évidents.
Intéressant. Donc, ça s'applique bien au début, mais à un certain point donné, ça va changer. Tu avais parlé, quand tu étais venu, puis c'était Robin qui faisait ce podcast-là au début sur Hypercroissance, que le SEO, ça avait vraiment été un de tes leviers de croissance numéro un pour Soumission Rénovation. On revient un petit peu à l'idée de partage des meilleures pratiques. Donc, pour une place de marché comme Soumission Rénovation, le volet organique sur Google a énormément fonctionné. Est-ce que c'est tes mêmes pratiques-là? Est-ce que c'est tes mêmes leviers de croissance-là? Tu as été capable rapidement de les implanter sur les autres business et de voir des résultats similaires? Ou encore une fois, là, les stratégies d'acquisition, fallait quand même revoir ça quasiment de A à Z.
Mais c'est sûr que le résultat est plus mitigé. Puis je vais expliquer pourquoi je dis ça. Le SEO, c'est quelque chose qui se bâtit sur du long terme. Donc, je me suis mis en innovation au tout début. C'était moi tout seul. J'engage comme de monde. Tu sais, ça a pris du temps. Donc, le SEO m'a aidé dans ma croissance globalement énormément, mais j'avais plus de temps aussi pour que ça grandisse. Expert Source n'a pas, B2B Quotes n'ont pas le même luxe. T'sais, on veut pas prendre autant d'années pour arriver au même revenu. Donc, c'est sûr que le SEO a moins d'impact, mais t'sais, je vais donner, on va dire B2B Quotes. C'est sûr que passer à une business qui fait 250 000 par année à 1 million plus, le SEO, c'est pas ça qui va faire x4 à ta business du jour au lendemain. Mais on va dire Expert Source, l'avenir augure bien de ce côté-là pour le SEO. On est passé de 4 000 visiteurs par mois l'année passée à 15 000 visiteurs par mois, donc presque un fois 4. Donc, c'est sûr que ça, pour le SEO, pour Expert Source, c'est quelque chose qui va amener beaucoup de trafic, ça va amener beaucoup de résultats. Mais tu sais, même à 15 000 visiteurs par mois, c'est pas assez pour dire que, OK, ben 75% de la business est générée par le SEO. On veut aller plus vite que ça. Donc, il y a quand même une stratégie du cold call qui se fait, des choses comme ça. Puis B2B Quotes, vu que c'est avec les venture capitalistes, ben, tu sais, ça, c'est un autre niveau. Le SEO représente vraiment une petite infime partie des résultats. Mais à long terme, c'est très payant. Puis oui, il faut continuer à le faire.
Intéressant. Tu as parlé plutôt du temps. Donc, à un certain point, tu as une limite de temps de ce que tu peux penser dans ta douche, puis même dans tes rêves, de ce que tu disais. Ça ressemble à quoi présentement, toi, personnellement, ton horaire dans ces trois business-là? Est-ce que tu mets davantage de ton temps dans une de ces trois organisations-là? Est-ce que c'est partagé? Ça ressemble à quoi tout ça?
Tu sais, je crois que Dominique et Mathieu, les deux partenaires dans les autres business, voudraient que je passe le maximum de temps, idéalement 80 heures par semaine dans chacun de leurs business. Malheureusement, c'est pas possible. Je suis pas dans Harry Potter où est-ce que je peux retourner dans le temps puis faire tout ça. Tu sais, dans mon 40 heures par semaine, la réalité, c'est que je vais passer la majorité du temps dans Soumission Rénovation, quand même une partie non négligeable dans B2B Quotes, puis un peu moins dans Expert Source. T'sais, Expert Source, on parle de peut-être 2 heures par semaine, quelque chose comme ça. T'sais, une heure d'exécution, puis une à deux heures de coaching, puis de poser des questions, puis d'aider. Ouais, je dirais que ça ressemblerait à quelque chose comme ça. Mais finalement, c'est pas facile. Puis c'est un défi qui évolue dans le temps. Qu'est-ce que je disais par là, c'est qu'au tout début, c'était Soumission Rénovation. C'est super facile, je focus à 100%. Après ça, il y a eu B2B Quotes. Puis Mathieu voulait que je passe évidemment le plus possible de temps dans B2B Quotes. Puis ça a mené à des conflits à ce niveau-là. Dans le sens que Mathieu aurait voulu que je passe au moins 20 heures par semaine et plus, puis des fois, ben je peux pas le faire. Donc, qu'est-ce qui se passait, c'est qu'au tout début, je faisais pas vraiment de barrière entre tes business. Je faisais plus qu'est-ce qui était le plus important, le plus urgent. Puis, ça faisait des fois que je négligeais soit B2B Quotes ou des fois, je négligeais soumission en rénovation. Je fais une petite pause. C'est correct pour le chat?
Ben oui, c'est correct.
Parfait. Donc, on a le temps. Ouais, parfait. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, on va dire, avec ExpertSource, c'est que j'ai mis les attentes un peu plus claires. Combien de temps j'allais passer dans ExpertSource par semaine. Puis là, ben, tu sais, c'est un peu plus normal. Donc là, je me mets des blocs horaires dans mon horaire, dans mon calendrier pour justement dire, bon, mais ça, c'est du temps pour B2B Quote, ça, c'est du temps pour ExpertSource, puis le reste, c'est pour soumission rénovation. Comme ça, au moins, je m'assure de donner de l'amour à tout le monde.
Donc, de ce que je comprends bien en ce moment, c'est que pour, on va dire, B2B Quotes, ExpertSource, on va dire que t'as un rôle quasiment de consultant externe qui vient quelques heures par semaine travailler dans ces différentes organisations-là sur des points spécifiques. Bien entendu, t'es partenaire d'affaires, t'es actionnaire dans ces organisations-là, mais ton rôle s'apparente davantage à ça. Et soumission rénovation, ça serait vraiment là que la majeure partie de ton temps est impliquée.
Pas exactement. Donc, dans soumission rénovation, c'est sûr que c'est là où je passe la majorité de mon temps, puis que c'est là où mon ratio de rêve va être plus élevé là, pour la business. Puis donc, dans ExpertSource, oui, je crois que tu as raison de dire ça comme ça, mais dans B2B Course, je fais encore beaucoup de choses d'exécution. Tu sais, je participe aux rencontres, évidemment. Oui, je vais essayer d'aider au niveau de ces stratégies high level, mais je fais encore d'exécution. Ça peut être, par exemple, dans le Google Ads. Ça peut être créer carrément des campagnes, optimiser certaines affaires. Ça peut être créer des rapports pour calculer le ROAS des campagnes de Google Ads. Ça peut être dans la programmation. Des fois, quand il y a un bug, ben des fois, je suis la meilleure personne qui va comprendre comment le régler parce que je connais la base de données par cœur, je sais comment les interactions. Donc, je fais encore vraiment des tâches d'exécution aussi dans B2B Quotes. C'est sûr que avec le temps, plus le temps va passer dans B2B Quotes, plus on va avoir des personnes qui vont être spécialisées. Puis oui, là, mon rôle va peut-être plus se transformer à aider, high level l'équipe. Mais c'est moi qui fais la comptabilité dans B2B Quotes. Donc, je fais encore beaucoup de tâches d'exécution.
Intéressant. Moi, je te pose une question. T'as des présidents, là, des opérateurs, littéralement, en Mathieu et Dominique, dans les deux organisations, c'est eux qui dirigent la baraque vraiment de ces entreprises-là. As-tu, à un certain point, la pensée dans la dernière année ou l'autre d'avant, ou même peut-être dans les dernières semaines, d'avoir quelqu'un qui dirigerait le bateau pour soumission rénovation? Est-ce que toi, tu peux te reculer un petit peu et avoir davantage une vue 360 sur les trois entreprises au lieu d'être littéralement la personne qui dirige soumission rénovation?
Je crois que c'est difficile de remplacer un fondateur dans une entreprise. Tu sais, un fondateur, je parle pas juste de soumission rénovation, mais je parle de presque toutes les entreprises. C'est quand même un gros risque. Si on dit que toi, je te remplaçais dans G7, puis je mettrais quelqu'un, tu sais, je mets un directeur des opérations, tu sais, un directeur général, c'est pas la même chose que d'avoir vraiment le fondateur. Tu sais, il y a plein de choses que j'ai faites en 2014, 2015, 2016. Que les personnes qui sont avec moi depuis 2007 ont aucune idée, puis que je vais avoir des réflexes pour dire, OK, ça, c'est une bonne chose à faire, puis ça, c'est par expérience, je sais que ça, c'est une mauvaise, on s'enligne vers un mauvais choix. Je vais donner un exemple précis. Tu sais, je me fais challenger pas tous les jours, mais je me fais challenger quelques fois par année pour dire pourquoi on prend pas une commission. Ben, la réalité, c'est qu'en 2014-2015, on prenait une commission, sur les jobs en rénovation, au lieu que ce soit un paper lead. Je l'ai vécu, je sais pourquoi maintenant j'aime pas cette stratégie-là, et pourquoi c'est ça, c'est que le changement à paper lead a été une des raisons de notre succès.
Fait que juste pour être certain, quand on parle de ça, c'est que votre modèle d'affaires, vous vendez les leads, que ce soit pour B2B Quotes à des agences de marketing, soumission rénovation des entrepreneurs en construction, ces différents fournisseurs-là achètent le lead, c'est ça votre modèle d'affaires, et par le passé, vous preniez une commission si la personne avait le projet. C'est un petit peu ça que tu dis ici?
Ouais, j'avoue que j'aurais peut-être dû plus spécifier parce que pour moi c'est très 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 clair. Mais pour les personnes qui nous écoutent, ça savent pas exactement comment ça fonctionne. Juste rapidement, l'entrepreneur moyen pour qui achète le projet moyen, c'est vraiment le plus normal, va payer environ 20$ pour avoir accès aux coordonnées du client dans une soumission rénovation. Alors qu'en 2014-2015, on chargeait jusqu'à 8% de la job. Puis tu sais, ce changement-là qu'on a fait en septembre 2015, ce pivot-là, tu sais, il y a une raison pour qu'on a fait ce pivot-là. Puis c'est pour ça aussi que de 2015 à 2016, on a fait x4 à la business parce qu'on a fait ce pivot-là. Mais quelqu'un qui arrive, qui est directeur général, va pas nécessairement connaître toutes ces raisons-là. Ça veut pas dire que je suis irremplaçable. Clairement, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va être meilleur que moi à diriger l'entreprise. Mais avoir le fondateur, tu sais, l'entreprise, elle est encore relativement jeune. Elle a pas de cheveux blancs. Il y a beaucoup de choses qu'on apprend. Elle est encore en mode startup. Oui, quand on va être rendu peut-être à 100 employés, 200 employés, peut-être que là, il y aura quelqu'un de meilleur que moi à diriger l'entreprise. Mais pour en ce moment, avec le plus de modestie possible, oui, je crois que je suis la meilleure personne à gérer Submission Innovation, puis l'amener à l'étape où est-ce qu'on peut arriver à une centaine d'employés ou 200 employés.
Intéressant. Très intéressant même. Je continue mes petites questions que je voudrais savoir. On vient de parler là de modèle d'affaires. Donc, le volet paperly, le volet commission que tu as testé les différents dans le passé. Tu es arrivé avec des conclusions fermes pour Submission Innovation. La meilleure chose à faire, c'était d'arriver et de vendre les leads au lieu d'aller prendre une certaine commission si le projet était fait littéralement par l'entrepreneur. Je ramène cette question-là à tes deux autres entreprises. Est-ce que tu as eu à nager selon différents modèles d'affaires sur Xpersos et B2B Quotes ou t'es reparti avec la même assumption que ces deux entreprises-là allaient performer sur le modèle de vente du lead et qu'on allait aller littéralement dans cette direction-là?
C'est sûr et certain que la question, la fameuse question de la commission versus le paper lead, elle s'est posée. Puis tu sais, quand je dis qu'à chaque année, je me fais challenger sur ça, je prends l'exemple de Xpersos. Dominique est allé chercher sa licence de courtier hypothécaire pour prendre, entre autres, une commission auprès des autres courtiers hypothécaires. Sinon, selon la loi, t'as pas le droit. T'sais, oui, j'étais contre l'idée, mais à un moment donné, t'sais, c'est aussi sa business, puis il doit faire ses choses de son côté. Puis peut-être que j'avais tort. T'sais, moi, je viens d'une industrie de la rénovation, c'est beaucoup plus simple, selon moi, de le faire avec un paper lead. Mais peut-être que dans l'industrie de l'immobilier, c'est peut-être plus simple de faire la commission. Et donc, j'ai dit, OK, même si mon expérience me dit que c'est une mauvaise idée, à un moment donné, c'est nouveau, c'est une nouvelle industrie, let's go, on s'essaye. Donc oui, il y a des visions qui vont être différentes par rapport à ça, mais tu sais, la réalité, c'est que ma vision que j'ai faite dans Submission Innovation, ben ça va clairement, tu sais, les expériences qu'on a faites positives et négatives vont impacter les visions des deux autres business, parce qu'à un moment donné, c'est quand même la vraie expérience qui est dans l'industrie du marketplace. Tu sais, dans B2B Coach aussi, on a fait des commissions des fois sur certains projets que, tu sais, on savait pas trop comment le gérer, puis on a fait de la commission. Donc, oui, il y a des choses comme ça qui se passent. Puis à un moment donné, tu sais, c'est pas à moi de dire non, je mets un veto sur ça. C'est aussi à cette entreprise-là de vivre leur expérience.
Vous avez un modèle de vente récurrent maintenant, je pense, sur B2B Coach, si je me trompe pas.
Tu parles des forfaits, oui, effectivement. Puis regarde, on vous dirait le forfait, c'est un très bel exemple. Mm-hmm. Les forfaits dans B2B Quotes et dans Submission Innovation, dans les deux entreprises, il y a des forfaits, mais ils sont complètement différents. Tu sais, c'est, à part le mot forfait, il n'y a rien qui est similaire.
Okay.
Dans B2B Quotes, c'est par exemple l'accès privilégié au projet, principalement. Tu sais, c'est ça qui va motiver le monde à prendre des forfaits, parce qu'on réalisait que du côté de B2B Quotes, il y avait plus un constraint d'avoir des projets. Donc, les fournisseurs étaient prêts à être les premiers sur avoir le premier go, en fait, le premier droit de refus, je pourrais dire, sur les projets. Donc ça avait une valeur pour les fournisseurs. Mais dans Submission Rénovation, on parle souvent qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre dans le domaine de la rénovation et dans la construction. Les entrepreneurs, ils ont beaucoup moins ce besoin-là d'avoir le droit de premier refus. La réalité, c'est qu'ils sont souvent submergés par les demandes. Donc nous, on a fait un forfait où est-ce qu'on va te dire, ben regarde, paye un certain montant par trimestre ou par année et tu vas avoir droit à un certain nombre de projets gratuitement. Donc, c'est plus une façon de nous sécuriser leur investissement puis en leur donnant un rabais. Donc, deux compagnies similaires, c'est juste que l'industrie fait en sorte que les forfaits sont complètement différents.
Intéressant. Très, très intéressant même. Je fais une petite parenthèse sur le podcast en cours afin de vous remercier tous et chacun qui nous écoute. Vous êtes des milliers chaque mois à écouter Hypercroissance et ça me touche du fond du cœur. Également, si vous connaissez quelqu'un qui aurait sa place sur le podcast pour nous parler d'hypercroissance, je vous invite à m'écrire personnellement au email suivant agang@j7media.com, donc A-G-A-G-N-E, @7media.com. Et ça me fera un énorme plaisir de discuter avec vous. De retour à l'épisode en cours. Tu as parlé tantôt de trucs positifs, mais qu'il y a eu également certains points négatifs, certains enjeux. Est-ce que tu es capable de nous parler peut-être les points complexes, les points que tu as eu à poser là, de, de sérieuses questions à savoir, crime, pourquoi j'ai lancé 3 organisations? Finalement, c'est pas mal plus compliqué que prévu. Peux-tu nous parler un peu de ces enjeux complexes-là, ces enjeux négatifs-là, pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui et qui auraient peut-être en tête de lancer d'autres organisations avec leur, avec les actifs de leur organisation principale?
Oui, je vois la question, puis j'aurais voulu qu'on me donne des pistes là, avant que je commence. je vais commencer avec regarde, je vais commencer avec ma vision de comment j'ai quel deal que j'ai fait avec Mathieu et Dominique. C'est essentiellement le même deal. C'était que pour moi, c'est très important que la personne avec qui je fais le deal sente que c'est sa business, puis sente que c'est pas moi qui ai fait le deal le plus requin. Donc je vais prendre l'exemple de Dominique, tu sais, on est 50-50 dans l'entreprise et j'avais même dit, regarde, moi je peux être 49, tu vas 51, tu sais, je veux que ce soit ta business. Et pour lui, c'est une super belle opportunité. Tu sais, c'est j'ai l'opportunité d'avoir une plateforme qui existe déjà, d'avoir une business à 50%, puis avoir, puis la réalité c'est que je le finançais aussi. Puis tout ça fait en sorte que lui est très motivé. Tu sais, c'est vraiment sa business. Puis moi, je serais content d'avoir 50% dans une business. Réellement, j'aurais pu trouver quelqu'un que j'aurais pu dire, regarde, toi t'as 25% de la business, moi j'ai 75. Voici pourquoi. Mais tu sais, psychologiquement, 50-50. Ça fait vraiment, OK, on est là, on y va à guerre ensemble.
Intéressant.
Une des choses, par exemple, que j'aurais aimé qu'on me dise avant, c'est de comment, puis là, je vais parler dans le cas de B2B Quotes, comment mieux prévenir l'avenir, en quelque sorte. Je vais être un peu plus précis dans ce que je veux dire. Au tout début, aucun problème au niveau de l'actionnariat. Mais quand on va dans le chemin des VC, ben eux, voir quelqu'un qui est à temps partiel dans la business, qui est aussi qui a une présence aussi importante sur le cap table, c'est un problème. Donc là, tu sais, l'entreprise aurait pu honnêtement mourir là, ou ça aurait pu être très difficile les relations avec moi puis Mathieu et les autres actionnaires de B2B Quotes, si j'avais été greedy puis que j'avais pas eu de bons partenaires. Autant que moi j'ai mis de l'eau dans mon vin. Je vais dire de l'eau dans ma soupe. De l'eau dans mon vin, autant que Mathieu puis les autres ont mis de l'eau dans leur vin pour trouver c'est quoi la meilleure entente pour la business. Puis c'est vraiment l'histoire des VC, quand ils sont arrivés, puis qu'ils auraient pu vraiment tout dire, ah, ça m'intéresse pas cette business-là parce qu'il y a trop de risques à long terme. Donc, si on avait pu mieux structurer qu'est-ce qui se passe dans le cas, OK, ben si tu veux faire une lifestyle business, tu veux-tu faire qu'on VC puis qu'on fasse un deal structuré en fonction de ça, ça aurait évité une grosse conversation puis un gros risque corporatif pour dans le cas de B2B Quotes. Une autre chose que j'aurais fait, c'est que j'aurais mieux défini c'est quoi mon implication dans B2B Quotes puis dans Expert Source. Tu sais, tantôt, j'en parlais, là, Mathieu puis Dominique auraient bien voulu que je sois là plus que temps plein dans chacun des business. Puis, tu sais, dans chacun de nos têtes au tout début, c'était clair, c'était facile. Puis finalement, c'était pas si clair que ça, c'est quoi les attentes de chacun envers l'autre. Moi, dans ma tête, j'allais plus être en arrière. Puis Mathieu, par exemple, allait plus à la personne qui allait diriger le bateau. Mais finalement, lui, il pensait que j'allais mettre plus de temps. Donc, tu sais, je sais que ça aurait pu être très évident de mettre ça clair. Mais vu que je connaissais Mathieu depuis longtemps, j'avais eu l'impression que on n'avait pas besoin de mettre ça par écrit. Mais si on avait mis ça par écrit, honnêtement, ça a duré pendant un an et demi, là, des conversations par rapport à mon implication dans B2B Quotes. Puis finalement, ça a été réglé grâce aux VC qui ont dit, OK, faut faire quelque chose par rapport à ça. Puis là, on a mis les cartes sur la table puis on a trouvé la solution tous ensemble.
Ah ouais, OK, c'est donc bien fascinant ce que tu nous dis aujourd'hui, très intéressant même. Donc, ce que je comprends bien, c'est que dans un deal initial, si deal initial il y a à être revu dans le futur pour toi, disons que, je sais pas, dans quelques années, tu lances une autre plateforme comme ça, tu veux mettre ça clair si éventuellement on a une vision d'avoir d'autres actionnaires dans l'organisation. Ça aurait été ça littéralement peut-être la distinction que tu aurais mis dans l'entente initiale.
Ouais, puis des mécanismes, déjà de régler le mécanisme de comment faire si on dit moi je dois céder des parts, ben selon quel mécanisme, comment est-ce qu'on calcule ça, juste pour dire regarde, c'est ça que c'est, fin de la conversation, c'est facile de même, au lieu de, tu sais, je me suis bien entendu avec Mathieu parce que ça fait longtemps qu'on se connaît, puis les deux on a un caractère on est plus des deal makers que des deals, tu sais, que des personnes qui vont absolument vouloir gratter chacun les sous, mais si moi ou Mathieu on avait été très greedy, il y aurait eu un problème, les VC probablement qu'on n'aurait pas pu trouver une entente. Les VC auraient dit non, ça ne nous intéresse pas. Puis ça aurait causé un vrai problème à long terme pour l'entreprise, puis peut-être même à la perte de l'entreprise.
Intéressant. Très intéressant même. Je pense pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, c'est une bonne leçon à avoir. Les points positifs Dis-moi donc les points positifs que tu vois à avoir trois organisations comme ça. Au-delà de, j'imagine, des actifs que tu vois grandir sur le long terme, peut-être des possibilités même d'exit, hein? On le voit, si B2B Code, vous prenez le chemin du venture capitalist, peut-être éventuellement il y a une possibilité de sortie là-dedans. Mais y a-tu d'autres avantages que tu vois à avoir trois entreprises similaires qui œuvrent dans des verticales différentes?
Ouais, tu sais, il y a des avantages au niveau opérationnel, mais avant que je parle de ça, ce qui est quand même particulier, c'est j'aurais pas moi-même parti une business puis pris le chemin des venture capitalistes. Mais en ayant cette observation qui est plus safe, tu sais, qu'il y a une belle croissance, qu'on a une belle équipe, tout ça, mais tu sais, la réalité, c'est que c'est moins safe. C'est plus safe, excuse-moi, tu sais, j'ai pas d'investisseurs externes, on n'a plus de dettes externes. Tu sais, de ce côté-là, c'est financièrement, c'est quand même super. Mais ça me permet de vivre aussi l'expérience avec B2B Coach. C'est quoi avoir une business startup qui fait le chemin vraiment des VC? Donc, j'ai comme le meilleur des deux mondes. Je peux, de façon sécuritaire, vivre ce chemin-là parce que ben j'ai subi ça en innovation qui, au pire, si ça chie B2B Coach, ça me ferait chier. Je serais pas heureux du tout. Mais je peux prendre ce risque-là sans m'inquiéter tous les jours de « Oui, mais qu'est-ce qui arrive si ça fonctionne pas? » Donc ça, c'est plus au niveau, tu sais, disons, personnel puis au niveau expérience. Mais je te dirais que la chose numéro un d'avoir ces trois entreprises-là, c'est les best practices. Tu sais, les best practices, ça peut être, par exemple, au niveau des landing pages. Avoir, tu sais, quand quelqu'un découvre, « Ah, ben regarde, moi, je vais faire un test AB, puis mon résultat significatif dit que c'est mieux d'avoir ça comme ça. » Ben clairement, on va le tester dans les autres business, puis on va le faire tout de suite, puis on va voir si ça a un impact positif comme ça a dans la première business. Mais ça fait aussi des éléments négatifs d'expérience. C'est « Ah, j'ai fait ça de même, ça a complètement fait un échec, puis ben on va pas le faire dans les autres business. » Ben on va peut-être le faire, mais disons qu'on va le faire avec des pincettes. Tu sais, c'est pas juste au niveau des pages AB ou des éléments techniques, ça peut être aussi de dire « OK, voici une nouvelle façon, on va dire les forfaits. » B2B Code sont mis en place des forfaits pour les fournisseurs. Ben, en moins d'un an, il y avait des forfaits pour les experts dans Expert Source. Donc, toutes ces choses-là font en sorte que on s'aide mutuellement. Puis quand une entreprise va très bien, ben, ça motive les autres à dire, ben, OK, eux sont capables de faire ça, pourquoi pas nous? Puis ça aide les autres entreprises quand des fois, ça peut être un peu plus difficile pour les autres entreprises dans certains moments.
Puis également, j'imagine que ça peut te donner des apprentissages de des choses à ne pas refaire dans le futur, dans une optique où tu viens de vivre le chemin, où tu le vis en ce moment, le chemin du venture capitalist avec B2B Quals. Ben peut-être que ça te donne une idée de dire, « Hey Dominique, avec Experso, j'aimerais ça qu'on s'assoie juste pour être certain, c'est-tu un chemin que tu veux prendre ou un chemin que tu veux pas prendre? Si c'est un chemin que tu veux prendre, j'aimerais peut-être qu'on revoie si ces scénarios-là arrivent, voici comment qu'on va s'y prendre, etc. » Pour être certain que tu n'aies pas un enjeu qui se déroule comme qui a pu se dérouler, disons, dans la dernière année, là.
Ouais, pis c'est absolument vrai. T'sais, je ne ferais pas le chemin du VC avec Subsidio Innovation, puis avec Experso, on s'est posé la question, puis Dominique n'était pas à l'aise. Mais ça fait en sorte quand même qu'on se pose des questions. Puis c'est clair que après ça, ben ça plante des idées dans la tête, toutes ces choses-là.
Intéressant. Parlons-en un peu de ça, la vision. C'est quoi les visions des trois organisations maintenant sur un horizon 2 à 5 ans?
Ben 2 à 5 ans, c'est sûr que tu sais, je crois que tu as un peu deviné, le Subsidio Innovation puis Expert Source, ça prend un chemin un peu plus sécuritaire. Même si on a une belle croissance, Expert Source a fait x2 par rapport à l'année passée, puis il risque de faire x2 par rapport à l'année prochaine. Puis, Subsidio Innovation, on peut se faire des fois deux, c'est peut-être un peu plus difficile rendu à notre taille, mais on vise quand même de faire des belles croissances. C'est sûr que B2B Coast, le chemin du VC, ça c'est cette vision-là. Donc, la vision de B2B Coast, si je peux la résumer, c'est domination mondiale, peut-être qu'on va dans un maximum de pays. Pour te donner une idée, on a quelqu'un qui est en Jordanie, quelqu'un qui est en, tu sais, qui travaille dans la Jordanie, qui fait des appels pour le Canada, quelqu'un qui est dans les Caraïbes, quelqu'un qui est au Mexique, du monde à Toronto, tu sais, il y a déjà une pensée plus internationale. Dans Subsidio Innovation, tout le monde est dans un rayon de, disons, 25 km de Montréal. Donc, il y a ce genre de choses-là déjà. Il y a aussi la vision à long terme, dans le sens que Mathieu, qui est excellent dans qu'est-ce qu'il fait, au lieu de dire, OK, comment est-ce qu'on fait pour trouver 100 fournisseurs le mois prochain, il va dire, comment est-ce qu'on fait pour en trouver 10 000? Puis là, cette pensée-là, puis tu ris, mais tu peux imaginer que c'est vrai, mais cette façon de penser-là va aider à dire, OK, ben admettons, là, puis le but, c'est pas vraiment d'en recruter 10 000 le mois prochain.
C'est la vision.
Mais si je te donnais, c'est ça, c'est, si toi, Antoine, excuse-moi, je te donnais 1 million, là, je te donne $1 million si le mois prochain, tu as retrouvé 10 000 fournisseurs. Qu'est-ce que tu es prêt à faire?
Ah, c'est ça.
Puis c'est juste de c'est penser comme ça, puis de sortir de notre zone de confort qui fait en sorte que finalement, on va en recruter 500. Alors que l'objectif, tu sais, le monde disait, ah, ben, ça va être 100, mais finalement, on en recrute 500. En ce moment, les chiffres qu'on atteint de vente, s'il y a un an, quelqu'un m'avait dit, Michel, c'est ça qu'on va faire comme chiffre de vente, j'aurais dit, OK, mais le pote est légal, là, c'est cool, mais comme, sors de ça, là. Arrête de faire des prévisions sur Excel en fumant un peu trop. Mais pourtant, finalement, on réussit. Puis c'est entre autres grâce à Mathieu qui arrête pas de nous s'achaler avec, OK, mais c'est vraiment cool tout ça, mais comment est-ce qu'on fait x10?
Tout le temps.
Donc, et voilà. C'est ça, un peu la vision. Tu sais, dans Soumission à l'innovation, on va moins se poser cette question-là. C'est sûr qu'on se pose la question de comment on fait pour aller à la prochaine étape, mais on se pose moins la question de comment on fait pour faire x10 à ça.
Intéressant. Ce partage de vision-là. Puis c'est ça, ça peut avoir un impact positif sur tes autres entreprises parce qu'automatiquement, ça va peut-être influencer une vision à droite, une vision à gauche d'avoir quelqu'un qui dit des choses comme ça, là. C'est ça qui c'est un peu la c'est la beauté du network effect là, d'avoir autant de gens incubés avec
c'est motivant. Tu sais dans le bureau là on est un open office. Il y a 3 business dans un open office. Déjà une business dans un open office ça peut être quand même bruyant. Quand il y a 3 business, tu l'entends là, quand il y a un autre business qui ils font un bon coup là. Ouais, let's go boum 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 boum. Ben c'est sûr que là on va aller voir qu'est-ce qui se passe, on va entendre de bons coups. Puis des fois, on va se dire, OK, comment est-ce que je fais pour répliquer ça dans ma propre business?
Ah oui, ça challenge.
Ou dans Expert Source. Exactement. Donc, ça nous challenge. Puis des fois, c'est, tu sais, ça nous sort de zone de confort. Puis ça fait en sorte que, tu sais, j'ai dit que Expert Source, ça veut faire x2 l'année prochaine. L'arrêté, c'est qu'ils visent même plus que x2. Parce que là, ils se sentent quasiment gênés de dire, ben là, je vais faire juste ce chiffre d'affaires-là. Mais il veut aller plus vite. Puis, ben, c'est sûr que c'est motivant. C'est ça.
Toi, ta vision personnelle dans tout ça, parce que c'est beau, ça, c'est des entités à part qui ont l'air de grandir, pas par elles-mêmes, mais elles font leur bout de chemin. Toi, ta vision personnelle par rapport à tout ça, est-ce que la manière que t'opères les différentes organisations présentement, de mettre un peu de temps à B2B Quotes, un peu de temps Expert Source, beaucoup plus de temps soumis sur innovation, est-ce que tu crois que cette vision-là va rester sur 2-3 ans de ton côté ou… Non, tu as une vision distincte, tu te dis, garde, d'ici les 4 prochaines années, je vais avoir ce rôle-là dans mes 3 entreprises.
Tu sais, 4 ans, c'est 4 éternités dans le monde de la business.
Effectivement. On va dire 2.
Une des choses que j'ai réalisées, 2, ben même 2. Souvent, qu'est-ce que je réalise, c'est il y a 6 mois, je pensais jamais être où est-ce que je suis actuellement. Puis c'est vrai là depuis des années. Regarde, il y a 6 mois, là, on était le 10 juin. Le 10 juin, c'est la fin de la première vague, ça commence, les choses commencent à ouvrir. Mais finalement, on a eu une année record. L'objectif que j'avais mis en décembre 2019 pour Soumission à rénovation, on l'a atteint et même plus. Tu sais, j'aurais pas pu remercier, puis j'aurais jamais pu croire ça en juin qu'on allait vraiment tout détruire à ce point-là. 6 mois avant, ben dans un contexte de COVID, 6 mois avant, impossible qu'en décembre 2019, j'avais prévu qu'il y avait la COVID. Tu sais, je veux bien croire que je suis intelligent, mais pas à ce niveau-là. 6 mois, tu sais, et puis je pourrais revenir comme ça pendant longtemps, là, de jusqu'en peut-être 2014-2015, peut-être même avant, que 6 mois plus tard, il y a plein de choses qui sont passées puis que je m'attendais pas à ce que ça se passe de même. Puis c'est souvent plus positif que négatif, mais des fois négatif. Tu sais, j'aime bien dire que Soumission à l'innovation, ça va bien, que tu sais, on est de plus en plus sécuritaire. Mais la réalité, là, c'est que même en janvier de 2020, là, on était très serré financièrement. Je me suis coupé de 2 payes parce que je sentais qu'on était quand même très serré. Ouais. Donc, tu sais, ça, c'est des choses qui arrivent encore quand c'est des business qui sont plus jeunes, puis qu'il y a encore plein de choses qui se passent. Puis en ce moment, il n'y a jamais eu autant d'argent dans le compte d'entreprise. Donc, tu sais, c'est quand même un début. Puis en janvier, j'aurais donc jamais pu prévoir qu'est-ce qui se passe en décembre. C'est sûr qu'après ça, il y a une vision globale de où est-ce que je vais m'en aller. Mais après ça, de dire, ouais, dans 4 ans, c'est sûr et certain que je vais avoir pris un rôle de, disons, actionnaire passif. Non, de chairman, disons. Ben non, tu sais, je crois que ça n'aurait pas rapport. Tu sais, je crois vraiment que Soumission à l'innovation, il y a encore plusieurs belles années de croissance, de forte croissance qui sont devant moi. Puis je crois que je suis la meilleure personne à l'amener là. À un moment donné, on va atteindre un plateau, puis quand on va atteindre ce plateau-là, puis j'espère que ça va être le plus loin possible, puis que je vais pas voir la solution pour aller à la prochaine étape, ben oui, peut-être que là, je vais tirer ma révérence, puis peut-être que là, oui, il y aura peut-être quelqu'un qui va être meilleur que moi pour l'année à la prochaine étape. Puis tu sais, ça se peut que ça soit avec des investisseurs externes, ça se peut que ça soit avec en allant dans d'autres pays ou en ouvrant d'autres industries ou des choses comme ça, mais jusqu'à ce que j'arrive à ce plateau-là, moi, dans ma tête, c'est que les choses vont rester, ma position va rester la même. Tu sais, il y a 2 ans, tu m'aurais posé la même question, puis j'aurais dit, ma vision, c'est de continuer d'avoir une nouvelle business par année avec la même plateforme, puis éventuellement d'avoir, disons, 20 business qui sont peut-être pas tout au Canada, mais qui sont dans 20 industries, tu sais, qui sont pas compétitrices une envers l'autre, puis d'avoir un bureau où est-ce qu'on va offrir des services centraux qui vont aider tous ces business-là. C'est comme un incubateur de marketplace. Puis là, ce que je réalise, c'est que c'est pas le chemin que j'ai pris, puis je crois pas que c'est le chemin que je vais prendre dans les 2 à 5 prochaines années. Ça se peut qu'après 5 ans, je prenne ce chemin-là. Ça se peut qu'après ça, on en développe plein de plateformes similaires parce que là, ils ont atteint une certaine maturité. Ça se peut que finalement, Submission Rénovation, ça soit dans 10 autres pays parce qu'on va franchiser ça. Mais j'ai aucune idée, tu sais. C'est ça la réalité.
Transition d'une entreprise à l'autre. Je suis conscient que tu peux pas faire exactement la même stratégie d'acquisition avec Expert Source qu'avec Submission Rénovation. Il y a des subtilités, je comprends, un modèle de revenu qui est différent, qui pourrait s'apparenter à des royautés, à un pourcentage des ventes générées, etc.
Oui, c'est clair, j'ai déjà eu ce genre de pensée-là, j'ai déjà eu des conversations avec certaines personnes, dont toi, à propos de ça. Donc oui, c'est clair que c'est possible. Est-ce que c'est possible? Absolument. Puis est-ce que ça serait un modèle de business viable? Je suis convaincu que oui. En ce moment, ma vision, c'est, tu sais, Submission Rénovation, on est numéro 1 au Québec. Quand on va être numéro 1 au Canada, je crois qu'on va avoir vraiment une preuve de concept pour dire, hey, tout le monde, quand on arrive, disons, je veux dire, en Pologne, tu sais, je prends un pays au hasard, qui a quand même un assez grand nombre de populations. J'arrive en Pologne, puis je dis, regarde, on est numéro 1 au Canada, on a fait ça, on est dans 2 autres industries, l'immobilier puis dans le B2B. Clairement, on pourrait faire quelque chose comme ça, qui est spécialisé, disons, OK, toi, tu préfères la rénovation, parfait, regarde, on va te faire un playbook, comme tu dis, pour la rénovation, faire ça dans plusieurs autres pays. Mais je crois que jusqu'à ce que je sois numéro 1 au Canada, je gagne plus à focusser sur être numéro 1 au Canada, puis arrêter ça de passer à la prochaine étape, qui est qu'est-ce que tu dis?
Très intéressant. Ben c'est ça, comme tu le dis, il y a une limite à un moment donné, un focus, même si t'es pas actionnaire de ces autres organisations-là, tu le sais que la charge de travail serait immense, donc t'as l'impression en ce moment qu'il y a un meilleur retour sur ton temps, sur ton argent, de focusser à devenir le leader de marché là, au Canada, si je comprends bien.
Exactement. Tu sais, quand on va, si on dit un jour, OK, on fait ce plan-là de le franchiser ou le licensing, puis qu'on dit, let's go, on le fait, il va falloir qu'au début, je m'y mette vraiment. Si c'est pas à temps plein, c'est proche de temps plein pour que ça soit un succès. Parce que, disons, j'en fais 5 personnes là, dans 5 pays. Mais si eux, ça tout tombe, ben j'ai une preuve de concept. Puis la prochaine fois que je vais me lancer là-dedans, ça risque d'être difficile. Mais si les 4 sur 5 sont un succès, il y aura des files de personnes qui vont être intéressées à faire la même genre de choses. Puis donc, pour que ça fonctionne, il faut que je mette mon focus. Je veux pas être un géant au pied d'argile. Puis que finalement, tu sais, je suis 3e dans tous les marchés. Je veux être dans peut-être un peu moins de marchés, mais numéro 1 dans ces marchés-là, puis à ça, s'assurer que chacun des autres marchés qu'on va développer, que ce soit en corporate ou que ça soit via du licensing, ben que je sois confiant qu'on puisse vraiment tout détruire dans ce marché-là.
Intéressant. J'aime la vision. Michel, je terminerai avec des petites questions personnelles. Je suis un grand fan de lecture d'affaires. Je lis beaucoup de livres et j'aime toujours savoir si les gens que j'interviewe aime également la lecture d'affaires. Donc, je te pose la question, est-ce que tu lis des livres business? Et si oui, quels sont les livres qui ont pu marquer ton esprit dans les 2 dernières années?
Le livre numéro 1, là, business, que je cite puis que je dis à tout le monde qui devrait l'avoir, puis c'est même pas seulement business, là, c'est aussi relations interpersonnelles, c'est le fameux livre de Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People.
C'est mon livre fameux. C'est une bible.
C'est une bible.
C'est...
Puis,
top 3 chez moi.
Je l'adore, ce livre-là. C'est pas juste un livre qui est fait pour les personnes en business, comme je te dis. T'es en relation de couple, ça peut t'aider. Avec tes amis, ça peut t'aider. Puis en vente, ça peut t'aider. Dans tes relations de collègues, ça peut t'aider. Donc, ça, c'est un de mes livres favoris. Puis, tu sais, business, ce que je vais aussi beaucoup faire, c'est que je vais lire plein de micro-articles sur Internet. Tu sais, régulièrement, je vais mettre un peu de temps de côté puis dire, bon, ben comment est-ce que, tu sais, cette demi-heure-là, je vais lire sur un sujet qui, ça peut être, c'est pas obligé que ce soit sur l'SEO, ça peut être aussi sur d'autres genres de business qui n'ont pas du tout rapport avec moi, là. Puis des fois, c'est juste que ça va me planter une idée de, ah, ben attends, on pourrait peut-être faire, ils le font dans cette industrie-là, peut-être que je pourrais le faire de même aussi dans la mienne. Puis au niveau perso, moi, je suis un peu gêné de dire que ça fait trop longtemps que j'ai pas lu de choses perso, mais il y a quand même, pour moi, un livre que j'ai beaucoup aimé puis que je recommande aussi. C'est les 3 volumes de Les Fourmis.
Ah, OK.
Ouais, c'est
très bon livre.
Ouais, j'ai beaucoup aimé. Puis c'est quelque chose que. Puis c'est quand même, ça se lit très bien. C'est quand même des bons livres. Là. C'est pas des livres de 150 pages, mais c'est dans mes livres aussi que j'ai bien aimé, là, personnellement.
Intéressant. Podcast, est-ce que tu écoutes des podcasts pour peut-être encore une fois te donner des idées? Non, pas du tout.
Non, je ne regarde pas de podcast. L'affaire, c'est que si j'étais souvent sur la route, je crois que j'en écouterais.
Ouais.
Mais j'habite pas loin du bureau. C'est mon temps total dans la voiture par année. C'est pas énorme. Là. Donc, non, j'en écoute pas. Mais je peux te dire que sur la bol, je lis beaucoup d'articles. C'est peut-être ça qui va compenser.
OK, c'est bon à savoir. Routine. As-tu des routines avant de travailler, pendant que tu travailles ou après?
Ben, c'est plus le après. En fait, après une journée de travail, ce que je vais faire souvent, tu sais, avant que je dise ce que je vais faire, je vais expliquer qu'est-ce que je règle en faisant ça. Tu sais, je crois que beaucoup de monde vont se reconnaître dans qu'est-ce que je vais dire. Tu as travaillé fort. Tu vas peut-être travailler 40 heures dans une semaine, peut-être 60 heures ou même plus. Puis des fois, tu as l'impression d'avoir rien fait pendant une journée. Tu as fait plein de choses, mais tu n'as rien fait réellement.
Ouais.
Tu as juste éteint des petits feux, puis tu as été distrait par plein de choses. Tu as reçu un message texte, tu as répondu. Puis tu sais, tu viens de perdre 15 minutes là, tu viens de perdre une demi-heure là. Puis tu as été distrait toute la journée ou tu as juste combattu des petits feux partout. Qu'est-ce que j'ai fait pour régler ça? Ça fait longtemps que je le fais, c'est pas juste depuis cette année. C'est que je vais, à la fin d'une journée, je vais mettre, c'est quoi mes priorités de la journée d'après. Donc, je vais construire mon horaire par bloc. Je vais dire, bon, ben entre 9h et 10h, je vais faire ça. Entre 10h et 11h, je vais faire ça. Puis, tu sais, ça veut pas dire que je respecte mon horaire à 100%. Parce que clairement, des fois, il y a un feu, faut éteindre le feu. Puis, à chaque fois que j'ai fini une tâche, je le mets en haut dans mon horaire, dans mon calendrier, mon Google Calendar, je le mets à 2h du matin juste pour dire, bon, ça, c'est une tâche qui est finie. Puis ça va faire des fois en sorte que au trois quarts de la journée, j'aurai fini toutes mes tâches, puis je peux soit faire d'autres affaires qui sont moins importantes ou je vais prendre les tâches que j'avais mis pour les journées d'après. Puis s'il y a une journée où est-ce que j'ai pas fini mes tâches parce que finalement, il y a plein de choses qui se sont passées puis ça va arriver, ben je les remets dans mon horaire plus tard dans la semaine ou la semaine d'après. Donc, c'est comme ça que je vais... Ça, c'est une routine que je fais tout le temps puis ça m'aide tellement à être plus productif. Parce que je l'ai vécu, là. Puis plus qu'une année, là, je l'ai vécu quand je faisais le lavage des vitres. Je l'ai vécu quand je faisais dans Go Epic d'une autre entreprise. Je l'ai vécu au tout début dans Submission Rénovation. Ce sentiment-là de dire, à la fin d'une journée, mais qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Je ne pourrais même pas nommer une seule chose que j'ai fait, là.
Ah, tellement. Puis j'adore ce que tu viens de dire. Je fais la même chose. Je bloque des temps dans ma journée qui vont être attitrés à faire une tâche et tu suis ton horaire. Pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui ont des problèmes, des fois, de productivité, là, travailler en bloc, bloquer des heures, puis dire exactement la tâche qui doit être finie avant cette minute-là, vous avez même pas idée les impacts que ça peut avoir sur votre productivité. C'est assez impressionnant. Encore une fois, vous recherchez à avoir plus de productivité.
Juste pour les personnes qui écoutent, les blocs, c'est sûr que des fois, on va se mettre une tâche, genre budgéter une heure, puis finalement, ça va prendre 4 heures, j'ai mal budgété, ça arrive, des choses comme ça. Pas de problème, tu avances ta tâche, puis le lendemain, tu mets 3 heures, ou tu mets, si tu sens pas, tu sais, tu peux aussi juste break down la tâche, c'est une des choses que je fais, disons que je veux mettre en place un certain programme de fidélité, disons. Ben, je veux dire, ben, pour mettre en place ce programme de fidélité-là, je vais le break down en tâches qui sont environ d'une heure, puis c'est ça que je vais mettre dans mon horaire. Au lieu de dire, OK, je vais mettre une grosse tâche, finalement, ça avance pas parce que je sais pas ce que la prochaine étape, tout ça. Quand j'arrive le matin, je sais déjà qu'est-ce que je vais faire. J'ai pas besoin de penser. Je me mets en mode exécution au lieu d'en mode gestionnaire.
Exactement.
C'est à la fin de la journée, je me mets en mode gestionnaire.
Exactement. C'est tellement important de distinguer les moments où est-ce que tu réfléchis et les moments que tu exécutes. Parce que si tu essaies de faire les deux en même temps, c'est un chaos, ça fonctionne pas. Mais si tu sais très bien, là, c'est le moment que je planifie, puis là, c'est le moment que j'exécute, c'est tellement plus facile par la suite d'accomplir les différentes tâches qu'on veut faire. Michel, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si les gens veulent en apprendre plus là, sur Submission Rénovation, peux-tu nous faire un petit pitch de comment que ça fonctionne puis les avantages qu'on a à travailler avec ta plateforme? Et peut-être même les deux autres, d'ailleurs.
Ben oui, en fait, faut les deux autres, sinon je vais me faire chicaner. en gros, là, c'est super simple. Tu as un projet de rénovation, tu n'as aucune raison de ne pas utiliser Submission Rénovation, ça ne te coûte rien. Il n'y a pas de frais cachés que les entrepreneurs vont te recharger ou quoi que ce soit. Puis nous, le but, c'est de t'aider à trouver les bons entrepreneurs dans ton coin. Puis des entrepreneurs qu'on a vérifiés, est-ce qu'ils ont des poursuites, est-ce qu'ils ont leur licence. Tu as même une page profil de l'entrepreneur pour voir les commentaires des autres clients précédents. Puis côté entrepreneur, c'est la source la moins chère pour trouver des clients. Si vous faites Google Ads pour trouver des clients, ça c'est vrai pour B2B Course et Expert Source. Si vous faites du Google Ads, la réalité c'est que nous on revient souvent la moitié du prix de qu'est-ce que ça vous coûte en Google Ads pour utiliser notre plateforme, parce que c'est ça notre job à temps plein, c'est de créer des leads. Puis, ce que j'ai dit pour trouver un entrepreneur en innovation, la réalité, c'est que ça s'applique à la même chose pour B2B Coach et Expert Source. Ça coûte rien. B2B Coach, tu as une entreprise, puis là, ben, bon, le monde qui t'écoute ont des entreprises. Tu as un besoin, créer un site web, trouver quelqu'un pour une vidéo, trouver un comptable, un consultant, peu importe, ça peut être des formations. Ben, le processus prend environ 2 minutes. Ça t'évite, toi, d'appeler, de faire une recherche sur Google, faire okay, ben, création de site web Montréal, d'appeler 10 agences, puis finalement, c'est pas eux, ils font pas ça, eux font juste des budgets de, disons, 5 000 et plus, ton budget, c'est 3 000. Finalement, c'est pas eux qui sont le meilleur fit pour toi. Nous, on connaît nos entrepreneurs, on connaît nos agences. Le but, c'est de vraiment vous mettre en contact avec les bonnes personnes. Puis aussi, pour l'immobilier avec Expert Source, faut pas que je l'oublie. T'es en processus d'achat ou de vente de maison, on va t'aider à trouver ton courtier hypothécaire, ton courtier immobilier, ton arpenteur. Qui connaît un arpenteur? Ben, nous, on en connaît. On va t'aider à le trouver. Ton notaire, donc, tu sais, toutes ces personnes-là, on va t'aider. Donc, tu sais, il n'y a aucune raison de ne pas l'utiliser. Ça te prend 2 minutes pour déposer un projet, puis ça te sauve énormément de temps.
Mm-hmm. Ouais, effectivement, ça a une énorme valeur d'avoir quelqu'un qui, entre parenthèses, fait le magasinage à ta place, tu sais. Et par la suite, tu reçois ces leads-là, tu reçois ces soumissions-là et tu es capable de prendre une décision plus éclairée. Michel Jodoin, merci énormément d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est toujours fascinant de te parler, de connaître un petit peu tes idées sur certains sujets. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance. J'espère que le 56e épisode de Hypercroissance vous aura aidé à mieux comprendre les réalités qu'entraînent des lancements de projets. J'ai trouvé excessivement fascinant le fait qu'utiliser des ressources existantes pour lancer de nouveaux projets fonctionne au début, mais plus que l'entreprise avance, plus cette dynamique porte à disparaître. Également, si vous connaissez quelqu'un qui aurait sa place sur le podcast pour nous parler d'hypercroissance, je vous invite à m'ajouter directement sur LinkedIn et ça me fera un énorme plaisir de discuter avec vous. Je termine en vous invitant à nous donner une note de 5 étoiles sur iTunes ou sur votre plateforme de podcast préférée. Vos commentaires sont également très appréciés. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.